Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point actualité, l'Australie est en deuil au lendemain d'un attentat antisémite. Hier, un père et son fils ont ouvert le feu sur des personnes rassemblées sur une plage de Sydney pour la fête juive de Hanouka. Un drame qui a fait 15 morts, dont une enfant et 42 blessés. Au Maroc, 37 personnes sont mortes hier à Safi sur la côte atlantique en raison d'inondations dues à des crues, selon les autorités locales, dans un nouveau bilan. Et à Grenoble, un début d'incendie d'origine criminelle s'est déclenché cette nuit avant d'être rapidement éteint par un résident, selon des sources policières. Nous l'avons évoqué dans les titres, l'Australie est en deuil au lendemain d'un attentat antisémite. Hier, un père et son fils ont ouvert le feu sur des personnes rassemblées sur une plage de Sydney pour la fête juive de Hanouka. L'un d'eux a été tué, un drame qui a fait 15 morts, dont une enfant et 42 blessés. Un Français de 27 ans compte parmi les victimes et un homme, Ahmed El Ahmed, un vendeur de fruits de 43 ans, s'est interposé et a désarmé l'un des assaillants. Son geste a été salué dans le monde entier. Et le parquet national antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une enquête en France en parallèle à celle des autorités australiennes. Au Maroc, 37 personnes sont mortes hier à Safi sur la côte atlantique en raison d'inondations dues à des crues dans des habitations et des commerces, selon les autorités locales, dans un nouveau bilan. En Syrie, deux soldats et un civil américain ont été tués samedi dans la région désertique de Palmyre, alors qu'ils étaient en mission, selon le Pentagone. L'auteur de l'attaque a été tué. Nous riposterons, a lancé Donald Trump à la presse. Dans un tout autre volet, le dernier cycle des pourparlers à Berlin sur la situation en Ukraine a lieu aujourd'hui. Les négociateurs américains demandent toujours à l'Ukraine d'abandonner la partie de la région du Donbass, encore contrôlée par Kiev. Dans le reste de l'actualité, le réalisateur américain Rob Reiner, auteur de la comédie Quand Harry rencontre Sally, et son épouse Michelle Singer ont été retrouvés morts ce dimanche en Californie à leur domicile. La police confirme la thèse d'un homicide apparent. Et la mère du journaliste sportif français Christophe Glaise, condamné début décembre en Algérie à 7 ans de prison ferme en appel, a transmis une lettre de demande de grâce au président algérien Abdelmajid Tebboune. En France, à Grenoble, un début d'incendie d'origine criminelle s'est déclenchée cette nuit avant d'être rapidement éteint par un résident, selon des sources policières. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Et enfin, le Louvre est fermé ce lundi. Une grève votée à l'unanimité par les salariés du Louvre. Une grève reconductible pour dénoncer la dégradation de l'accueil du public dans le musée le plus visité au monde, selon les syndicats. C'est la fin de votre rendez-vous d'information. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. Place au dossier du jour. Un dossier du jour consacré à l'agression russe en Ukraine. Kiev espère convaincre Washington de la nécessité d'un cessez-le-feu sans concession territoriale préalable à la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les négociateurs américains se retrouvent à Berlin ce lundi. Sur le front économique, la semaine sera décisive pour le financement de l'Ukraine, selon la chef de la diplomatie de l'Union européenne, pour qui l'option la plus crédible est le prêt pour les réparations. Et c'est sur cela que nous travaillons. Nous n'y sommes pas encore et c'est de plus en plus difficile, selon les mots d'Ursula von der Leyen. Frédéric Petit, député MoDem des Français établi hors de France et spécialiste du dossier ukrainien, estime que cette réunion à Berlin est un pas vers une solution diplomatique.
Oui, je pense. Moi, je reviens d'Ukraine. J'ai passé 10 jours en Ukraine. Je suis rentré il y a quelques jours. Comme à mon habitude, j'étais sur le terrain, pas uniquement à Kiev, mais donc dans l'ensemble de l'Ukraine et de la société civile ukrainienne, qui est un peu mon leitmotiv. Et je sens une société qui est toujours aussi résiliente. Et donc, je suis parti avec une ambiance en France qui cédait un peu au bombardement cognitif de la Russie, en disant les Ukrainiens souffrent, ils vont casser, ils vont céder, etc. Et je savais que c'était pas exact et je savais pas trop comment nager tout seul à contre-courant. Et en fait, quand je suis revenu, je me suis rendu compte que le courant m'avait rejoint, puisque j'ai trouvé que Zelensky ramène la Russie et Trump à la réalité. Voilà, c'est assez impressionnant. J'ai trouvé ces deux initiatives de dire oui, ben, faisons des élections, mais dans ces cas-là, vous me protégez. Parce que je ne fais pas des élections si ce n'est pas protégé. Il a évidemment raison et c'est un contre-pied magnifique. Parce que du coup, d'ailleurs, Abrechi n'en a jamais parlé, mais ça veut dire je ne peux pas faire des élections si vous continuez à me bombarder mes civils, à me détruire mon pays.
Rappelons qu'il n'y a pas eu d'élection à cause de la guerre et que cela, c'est dans la Constitution.
Oui, de l'Ukraine. Voilà, mais ça, si vous voulez, ce qui était intéressant dans sa réaction, ce qui était extrêmement intelligent et brillant, j'ai trouvé, c'était de le lier au bombardement russe, c'est-à-dire de remettre les bombardements russes, donc les réparations, donc la responsabilité russe dans le fait qu'il y a des destructions en Ukraine que j'ai vues, qui sont pas irrémédiables, mais qui sont extrêmement douloureuses. C'est terrible quand vous avez des réseaux de chaleur qui ne marchent plus. Je suis passé sous les 40 km de filet breton. Quand vous êtes sur une route qui n'est même pas au front et que vous êtes obligé de vous protéger des drones parce qu'on voit les carcasses de voitures qui avant composent les filets bretons ont été bombardées, des voitures civiles. Hein. Donc, dire je ne peux pas organiser de vote si je ne suis pas protégé, au moins dans la partie où le vote a lieu, c'est assez génial. Et la deuxième chose qui est assez géniale, c'est de dire, très bien, concession territoriale, mais moi j'ai besoin de l'avis de mon peuple. Donc il faut aussi que je fasse un référendum pour accepter les concessions territoriales.
Et justement, quand l'Ukraine est pressée par Washington et Moscou de céder la partie du Donbass qu'elle contrôle, il s'agirait d'y créer une zone économique libre ou d'une zone démilitarisée. Est-ce que les soutiens de l'Ukraine sont assez puissants pour permettre à Volodymyr Zelensky de résister à cette pression?
Mais oui, Zelensky met le réel sur la table. Le réel, moi je l'ai dit, dès septembre 2023, la Russie a décidé unilatéralement d'inscrire dans sa constitution les quatre oblasts du Donbass, y compris la moitié de ces territoires qui n'ont jamais vu un char russe. Et j'ai dit, mais personne n'en a parlé à l'époque, j'ai dit, tout le monde prenait ça pour quelque chose qui n'avait aucune importance, la Russie a fait ce qu'elle veut, etc. Je dis, mais un jour, dans les négociations, quand ils seront coincés, plus ils seront coincés, un jour ils vous diront « Ah, mais on ne peut pas les céder puisqu'ils sont dans notre constitution. » Donc, en ça, évidemment, Zelensky a très bien joué.
C'était Frédéric Petit, député MoDem des Français établis hors de France et spécialiste du dossier ukrainien au micro de François-Xavier de Calonne. C'était le dossier du jour. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous suivre et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.